Bien. Bonjour à tous. Nous allons donc reprendre les travaux du colloque. Donc hier matin, Philippe Portier a évoqué dans sa présentation deux types de modèles qu'il a intitulés modèles segmentés et modèles unifiés. Pour le modèle segmenté, il citait en exemple l'Allemagne, le modèle unifié, la Grèce. Et bien ce matin, nous allons donc avoir une présentation de ces modèles. Alors d'abord avec le docteur Antje Roggenkampf, qui occupe la chaire de théologie pratique et de pédagogie religieuse à la faculté de théologie protestante de Münster, qui a récemment, dont le dernier ouvrage publié s'intitule « Méthode empirique et recherche pour les futurs professeurs ». Voilà, je lui laisse la parole.
Ça marche ? Ça marche, vous pouvez bien m'entendre ? Oui ? Oh, ok. J'ai pas d'habitude avec les micros. Bon, merci. Je me mets tout juste dans ma conférence. En Allemagne, la relation entre l'Église et l'État. Pardon, je commence par la structure. C'est ce que je vais vous exposer. Sans les remarques préliminaires. L'importance du compromis de Weimar, une première approche, une deuxième approche, changement de coutumes traditionnelles ou approfondissement de méthodes, et en guise de conclusion, quelques remarques. En Allemagne, la relation entre l'Église et l'État était depuis toujours presque différente de celle de la France. Ceci commence dès le temps de la Réforme. Depuis ce temps, deux églises coexistent, l'une protestante, l'autre catholique. Jusqu'en 1918, il y avait des répercussions du fameux cuius regio eius religio. Le souverain politique présidait l'Église. Au lendemain de la République de Weimar, il y en avait plus d'une vingtaine d'églises différentes. Et même aujourd'hui, sur le territoire de la RFA, toujours est-il que 20 Landeskirchen, je vous en ai mis une affiche, coexistent. En 1919, la constitution de Weimar, suite aux manifestations des parents et par crainte du spectre français, donc la séparation de l'Église et d'État, une position spéciale de l'enseignement religieux a vu le jour. Le fameux compromis de Weimar s'imposait dans une situation confuse et déchirée. L'enseignement religieux fait partie du programme ordinaire des écoles, à l'exception des écoles non confessionnelles laïques. Il est donné dans le cadre de la législation scolaire. L'enseignement religieux est donné en harmonie avec les principes de la confession religieuse intéressée, sans préjudice du droit de contrôle de l'État. Toutefois, la situation dans les différents Länder est loin d'être homogène. Tandis qu'en général, les affaires scolaires sont réglées par les 16 Länder, la question de l'enseignement religieux est mise à part. Il s'agit de la seule matière qui apparaît dans le Grundgesetz, le paragraphe 7.3. L'instruction religieuse, c'est ça le Grundgesetz, religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques, à l'exception des écoles non confessionnelles, je dirais plutôt simultanées. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'État. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré. Certes, la plupart des Länder ont organisé leur enseignement confessionnel avec le soutien des grandes églises, plus ou moins. Mais il y a des exceptions importantes, à commencer par Brême. Je vous cite la fameuse clause de Brême, que l'article 7.3, alias 3, la première phrase, n'est pas applicable dans un Land dans lequel une disposition contraire du droit de Land était en vigueur au 1er janvier 1949 et a continué par Hambourg, Berlin et le Brandenburg. D'autres paragraphes fondamentaux ont contribué à consolider son statut, parmi lesquels avant tout le paragraphe 4, qui stipule que chaque Allemand a le droit d'exercer sa propre foi. D'où la fameuse tournure « l'enfant à droite à la religion ». Depuis les années 80, la plupart des gens qui se prononcent en faveur de l'enseignement confessionnel ont recours à la fameuse citation d'Ernst Birkenfeld. L'État vit des conditions préalables qu'il ne sait pas se fournir lui-même. Ceci veut dire que l'État ne sait pas procurer une anthropologie des valeurs comme l'amour du prochain, etc., sur lesquelles l'individu puisse s'appuyer en communauté. Mais qu'est-ce qui se passe si les institutions qui étaient destinées à pourvoir ces valeurs s'inclinent? Car, entre-temps, la société a évolué. En 1948, il y avait une majorité des Allemands membres dans une église, plus de 98%. Aujourd'hui, on part d'un chiffre en dessous de 60% des chrétiens, 23 millions des protestants, 24 millions catholiques. Non seulement la population confessionnelle, mais aussi la population chrétienne a sensiblement baissé en Allemagne. Pour ne citer que quelques chiffres, je vous mentionne la Rhénanie-Westphalie. Tandis qu'en 2001, il y avait encore 1,8 million d'étudiants chrétiens et 225 élèves musulmans. En 2017-118, les chiffres sont les suivants. Voilà, 135,9% des catholiques et 16,7% des musulmans. Ceux qui n'ont pas de confession sont également à 16,7%. Et ce qui est encore à remarquer, c'est que la Rhénanie-Westphalie, ça couvre un quart de la population allemande. Donc, c'est un quart de la population allemande. Première approche, qu'est-ce qu'on enseigne dans les cours de religion protestants ou catholiques en Allemagne ou musulmans? Au lendemain du choc du programme international pour le suivi des acquis des élèves, donc PISA, en 2000, les administrations scolaires ont changé le système d'enseignement. Désormais, il fallait s'orienter envers les outcomes. Ceci inclut un changement de planning. Il y a depuis la distinction entre des compétences de processus et les compétences de contenu qu'il faut enseigner. L'enseignement religieux n'a pas pu s'y soustraire. Dans la suite, quelques exemples, encore une fois, de la Rhénanie-Westphalie. D'abord pour l'école primaire, puis pour le collège. On s'appuiera sur l'enseignement protestant, car les programmes catholiques n'en diffèrent pas pour autant, plus pour autant. Mais qu'apprennent donc les enfants dans l'enseignement religieux à l'école primaire ? À commencer par les buts de cet enseignement, l'enseignement religieux protestant ouvre aux élèves la possibilité de découvrir la perception chrétienne de l'homme, la possibilité de les introduire à la tradition biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament, la possibilité de rapprocher la réalité de leur vie et la tradition chrétienne afin que les deux s'expliquent mutuellement, la possibilité de leur proposer une sorte d'orientation à la recherche d'une fin de la vie durable, des perspectives pour une compréhension mutuelle, la liberté, la tolérance, le respect entre les hommes de différentes confessions et religions, des valeurs de responsabilité éthique pour leurs actions et la possibilité d'apprendre la tradition protestante à travers exemples et expressions d'une foi vivante. Selon toute apparence, les programmes ont deux buts. Ils visent un côté matériel, les points 1, 2 et 3, et un côté derrière le matériel, 4, 5 et 6. En même temps, ils trouvent leur base dans la tradition protestante, mais le programme dépasse le cadre de la forme et du contenu et a pour but de lier la vie quotidienne à une pensée théologique, d'où un peu des problèmes après. Six sujets apparaissent sur le niveau théologique. Donc, vivre ensemble, nous vivons dans la création de Dieu, Dieu nous accompagne sur notre chemin de vie, Dieu cherche les hommes cherchent Dieu. Jésus vit et annonce le royaume de Dieu, rencontrer Jésus-Christ. C'est pour l'école primaire. Je continue avec le collège. Pour les classes supérieures, le modèle fait explicitement le tri entre des différentes compétences. La compétence percevoir, de présenter, de juger, de faire un dialogue et d'agir de manière créative. Les 5 compétences sont les compétences en toute l'Allemagne pour les cours de religion protestante dans les classes supérieures, moyennes et supérieures. Et du côté du contenu, les thèmes sont carrément parallèles. Développer une identité religieuse, ça sonne l'école primaire, s'approcher à la foi chrétienne en tant qu'orientation de la vie, s'engager à la justice. S'engager à la justice et à la dignité des hommes, faire la connaissance de l'Église et d'autres formes de communautés religieuses, se mettre en dialogue avec les religions et l'idéologie en dialogue, apercevoir et étudier les phénomènes religieux dans la vie quotidienne et dans la civilisation. Je vous donne un exemple, c'est le numéro 4. Exemple, faire la connaissance de l'Église et d'autres formes de communautés religieuses. Si on y regarde de près, les élèves de la 5e au 6e s'engagent dans 3 semaines. Premièrement, on demande aux élèves avant tout de décrire de différentes confessions à l'aide des bâtiments, des personnes, des activités paroissiales et leurs pratiques religieuses. De plus, on leur demande d'identifier la paroisse protestante comme partie visible de l'Église. Deuxièmement, on leur demande de comparer les églises protestantes et catholiques, notamment quant à la conception de l'écriture et aux pratiques. De plus, d'analyser l'Église en tant que communauté de foi. Troisièmement, on leur demande d'échanger les expériences ou les non-expériences avec l'Église. De plus, de discuter des activités dans lesquelles l'Église se fait sentir communauté de foi et d'en prendre position. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est la mission. Bien que le programme exige une occupation approfondie de la notion de l'Église, il garde la distance envers tout stratagème ou danger de mission. Celle-ci n'étant pas strictement interdite par le paragraphe 4 de notre Constitution fondamentale, mais se soustrayant aussi à l'idée de responsabilité. Il en va de même pour d'autres sujets. Ni Jésus-Christ, ni l'homme, ni la création ne sont considérés comme une croyance. Les programmes invitent les professeurs à traiter les thèmes de telle sorte que les élèves ont la possibilité de découvrir l'univers religieux d'un point de vue intérieur. Les programmes exigent donc des profs de religion non pas de créer un accès vivace et moderne aux objets de la foi, mais aussi une vue intérieure qui donne envie d'y participer. Il en résulte que les profs doivent s'engager d'une manière personnelle et émotionnelle sans pour autant y être forcés. C'est l'article 7.3 qui dit ça. Mais on donne toute la responsabilité aux profs, pas aux élèves. Deuxième approche, l'étention. Je vous cite 3 modèles différents. Des pédagogues religieux ont de différentes perspectives sur ce qui en est de l'actuel enseignement religieux. Pour les uns, il y a une rupture nette des traditions religieuses. Autrefois, on partait d'un enseignement confessionnel uniforme. De nos jours, ce modèle qui vise à une triple homogénéité, la confessionnalité des profs, des élèves et de la matière, n'est pas loin d'être un idéal désuet. Premièrement, une relation envers l'Église n'existe que rarement. On constate qu'il y a très peu de connaissances religieuses et peu de pratiques. Par exemple, la participation à la messe catholique ou au service protestant, absence des pratiques liées à la foi. Deuxièmement, il en suit que les élèves participent à des cours qui leur exposent une tradition qu'ils ne vivent plus au quotidien, quoiqu'ils ne connaissent que très peu de cette tradition. Troisièmement, la situation des professeurs n'est guère plus confortable. On leur demande de ne pas seulement fonctionner comme experts d'une tradition théologique et pédagogique, mais aussi comme représentants de cette tradition. Et c'est ce que bon nombre d'étudiants n'acceptent plus. Néanmoins, les adolescents sont invités à prendre position envers ces textes et documents religieux. Cette position se voit majoritairement soutenue par les catholiques en Allemagne. La deuxième position est celle des protestants, les contradictions. Une autre position part de ce même constat. Il n'y a que très peu de socialisation religieuse. Ceci se révèle être d'autant plus grave qu'une majorité des chrétiens considèrent la religion comme affaire privée. C'est comme en France d'ailleurs. Mais si la religion n'est plus pratiquée en famille ou en public, quelle religion enseigne-t-on aux jeunes à l'école? Rares sont ceux parmi les jeunes protestants qui vont au service, bien que la moitié des jeunes s'intéressent à une pratique religieuse. Il en va de même pour les valeurs, bien que bon nombre des jeunes y tiennent aux valeurs chrétiennes, ce n'est pas l'Église qui répond de leur importance. Et il y a encore plus de contradictions. La plupart des élèves souhaitent un enseignement religieux qui fournit avant tout ces désinformations, mais aussi, et c'est un truc qui m'étonne, des rites solennels. La religion reste étrangère à la jeunesse, mais elle provoque en même temps un désir ardent. Cette position se trouve majoritairement soutenue par des protestants. Troisièmement, importance des changements. Une dernière position met en relief que l'enseignement religieux subit des changements nets mais sensibles d'une part, à part l'enseignement confessionnel. Il y a des matières alternatives comme la philosophie, les normes et valeurs, la philosophie pratique ou simplement l'éthique, selon les traditions des Länder. De l'autre, la diversité de l'enseignement religieux s'est accrue. On enseigne non seulement les confessions traditionnelles, mais aussi les religions à Lévis, orthodoxes, bouddhistes et musulmans. Ce sont les religions immigrées récemment en Allemagne qui réclament leurs droits. Tandis que les religions apparues récemment en Allemagne soutiennent la diversité de l'enseignement religieux, les vieilles religions soulignent l'importance continue d'une religion très souvent en voie de se transformer. Le changement envers des pratiques religieuses nouvelles. On ne connaît pas encore leur apparence précise, mais tout porte à croire qu'elle dépasse les normes actuelles, qu'il s'agisse des idéaux, des souhaits, des normes ou des attentes. Donc, approfondissement de méthodes ou changement de coutumes traditionnelles. Quel modèle la pédagogie religieuse offre-t-elle dans cette situation? D'abord, les informations. Le besoin d'informations théologiques. Ce que proposent les pédagogues, c'est une sorte de théologie élémentaire qui aide des jeunes à satisfaire leurs besoins de vérité et de justice, de soutien, de distinction du bien et du mal. Les professeurs ont besoin d'une théologie élémentaire avec laquelle ils savent donner des réponses aux questions implicites des enfants. Deuxième point, les informations mutuelles. Il faut informer les élèves mutuellement de leur confession et religion. Que savent des jeunes baptisés à l'église protestante, de l'Eucharistie ou de la vénération de Sainte-Marie? Rien. Que savent les catholiques de leur côté de la justification par la foi protestante et de ses effets à la vie quotidienne? J'avoue que ces effets sont pour la plupart du temps inconscients. Deuxièmement, les pratiques et les rites. Il y en a plus ou moins deux propositions. Il y a plus ou moins deux propositions. D'une part, il y a un modèle qui opte pour une ouverture des cours aux éléments religieux. On se sert des éléments religieux, mais elle attribue un statut expérimental. Et d'autre part, il y a un modèle préparatif, l'un s'appelle modèle performatif. On prépare des fêtes religieuses qui elles-mêmes auront lieu en dehors du cours. Il s'agit entre autres des services pour Noël, pour le début de l'année scolaire, pour Pâques, pour le bac, etc. Ces services sont organisés par les élèves à l'aide de leurs profs, mais on les fait à part, en dehors de l'école. Une troisième voie que je vous propose ou que je trouve la meilleure, vous pourriez bien la lire. Et ce qui importe, avant tout, à mon avis, c'est une sorte de spiritualité qui est de plus en plus nécessaire pour les élèves et surtout pour les professeurs et pour les futurs professeurs. Cette spiritualité, j'ai pu la constater dernièrement. Chez mes étudiants revenant du stage scolaire. Une certaine gratitude apparaît dans les réflexions des futurs professeurs. Pour n'en citer qu'une voix, entre autres, l'enseignement religieux diffère en ceci d'autres matières scolaires qu'on discute des questions idéologiques, éthiques et eschatologiques. Les enfants se servent de l'enseignement religieux, posent des questions et attendent des réponses, tandis que les profs doivent répondre d'une manière compétente, mais aussi honnête et approfondie. Et un peu plus loin, cette même étudiante dit « Il va arriver que nous ne nous pourrons pas répondre à une question. Mais ceci ne va pas nous choquer. Pour vous, pour nous, cette aphasie constitue une chance d'élargir notre horizon. Les enfants ont la perspective à eux vivace et inspiratrice. Je pense que je vais récapituler de tels coups à la maison afin de poser des questions à moi-même. Si on y regarde de près, on se rend compte ici que la réaction des enfants est conçue comme un don qui aide à produire au moins un certain équilibre, sinon une certaine spiritualité. Et c'est ce qui est l'essentiel de l'enseignement religieux en Allemagne, à mon avis. À ce moment, les profs ne sont pas considérés comme représentants, mais comme simples membres de leur église. Et il y en a maintes exemples. En guise de conclusion, quelles idées sur l'enseignement des faits religieux pourront-on retenir de la situation en Allemagne? Deux questions. Si j'ai bien compris les intentions du colloque, il s'agit d'identifier et de discuter des problèmes et des solutions qui empêchent l'enseignement des faits religieux en France. Dans ce but, il faut avant tout distinguer plusieurs dimensions de cette question. Est-ce qu'il s'agit d'initier les profs à introduire les faits religieux, donc à les motiver de présenter des choses religieuses, ou est-ce qu'il s'agit de leur montrer dans quelle manière ils peuvent profiter d'un tel enseignement? Deuxième point, à supplémenter. Dans le premier cas, le raisonnement devrait partir de l'importance culturelle qu'ont les éléments des traditions religieuses, notamment chrétiennes, pour la civilisation française. Les bâtiments, les noms des rues, les œuvres d'art, la littérature. Pour y arriver, on pourra proposer un léger changement des études. On mettra plus en relief les objets donnés et les habitus qui s'expriment à travers les œuvres culturelles. Quelle inclinaison de l'esprit les constructeurs des cathédrales, les peintres, les sculpteurs tentent à exprimer. Bourdieu donc. Troisièmement, à la recherche commune, dans le deuxième cas, on conseillera une attitude nouvelle qui permet aux profs d'apprendre en même temps que les élèves. De temps à autre, il vaut le coup de se laisser inspirer par les questions des jeunes. Ceux-ci s'étonnent de ce qui leur arrive s'ils rencontrent des pensées chrétiennes. Les élèves se voient confrontés aux pratiques de l'amour du prochain ou encore posent des questions sur la mentalité des artistes des objets d'art. Toutefois, je crois que l'attitude pourrait rester dans les deux cas la même. Un profond intérêt aux besoins émotionnels des élèves, à leur vie et à la recherche commune des racines religieuses de notre univers présent. Merci pour votre attention.
Vous changez de place, non, vous restez là, non, c'est pour changer. Bien, merci Antieu. Nous allons désormais entendre Elena Karachansiti, qui est docteur en sciences de l'éducation de l'Université Paris 8 et de l'Université de Patras, qui est actuellement chargée d'enseignement à l'Institut catholique de Paris, au département d'éducation, et qui est aussi animatrice à l'association Enquête, et dont trois articles vont paraître prochainement. Alors je cite « Le discours sur la création du monde dans les manuels scolaires grecs » ou encore « L'Europe et les Européens des manuels scolaires, le cas du cours d'histoire et de religion dans l'enseignement prioritaire en Grèce ». Je vous laisse la parole. 20 minutes.
Merci. Bonjour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une partie des résultats de ma thèse de doctorat qui a été soutenue. Et en 2015, je vais essayer aussi de mettre en perspective les évolutions récentes dans les cours de religion en Grèce. Et alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler des particularités du cas grec. Et David parle de la sécularisation des sociétés grecques en utilisant la phrase « believing without belonging », croire sans appartenir. En Grèce, c'est le contraire. On parle d'une appartenance sans croyance. Les Grecs, on est très attachés à notre religion, mais on ne connaît pas les doctrines religieuses et on n'est pas vraiment pratiquant. La religion orthodoxe fait plutôt partie de notre tradition populaire. Et la population grecque est assez homogène. Et on est 95% orthodoxe. Il y a une minorité musulmane qui vit en France, donc ça représente un pourcentage de 3%. Il y a une communauté catholique qui vit aux Cyclades. une communauté juive et pas des protestants. Quand même, ces dernières années, il y a un flux migratoire des pays de Moyen-Orient. Et à ce moment, il y a à peu près 60 000 immigrés qui vivent en Grèce, donc ils sont majoritairement musulmans. Donc, notre identité se base à l'orthodoxie. C'est un lien qui commence avant la fondation de l'État grec, pendant la période de l'occupation turque où les populations grecophones vivaient sous les milieux orthodoxes. Donc, quand l'État grec a été fondé en 1830, et juste après, le Trévira bavarois a fondé l'Église de Grèce, l'Église orthodoxe de Grèce, afin de protéger l'identité de cet État qui venait d'être fondé. Donc, d'après la constitution du pays, et parmi les missions de l'éducation est le développement d'une conscience nationale et religieuse. Et le premier article de la loi éducative définit les contenus de la citoyenneté désirée. Donc, les élèves grecs doivent être formés selon les éléments originaux de la tradition chrétienne orthodoxe. Donc, chez nous, depuis la création du système éducatif, il y a un cours de religion orthodoxe. C'est obligatoire, il y a le droit de dispense d'assiduité pour ceux qui attestent ne pas être orthodoxes. C'est un cours obligatoire depuis le niveau de C1, C2. Donc c'est 2 heures par semaine. Donc c'est tout au long, ces cours existent tout au long de la scolarité. Par contre, pour les lycées, on prévoit juste 1 heure par semaine pour les 2 dernières classes. Et une autre particularité que le ministère de l'Éducation a l'appellation ministère de l'Éducation, de la Recherche et des Cultes. Donc, le ministère qui gère l'éducation nationale est en même temps responsable pour les affaires ecclésiastiques, le recrutement des prêtres et leur paiement. Et il y a aussi un symbolisme religieux très fort dans le système éducatif. Il y a une prière matinale obligatoire pour tous les élèves. Le 11 septembre, c'est le jour du début de l'année scolaire, il y a toujours une messe pour que les élèves et le personnel éducatif soient bénis. Il y a des symboles religieux dans les classes scolaires. Après, c'est à la volonté du directeur de l'école de demander que les symboles ne soient pas présents dans les classes. Pendant les grandes fêtes nationales, et on va à l'église, donc on est présent, on est à une messe. Alors, à propos du cours de religion, j'ai déjà noté que c'est un cours qui existe depuis 1834, depuis la création du système éducatif. Et c'était le premier cours qui apparaissait dans les curriculum scolaires jusqu'à la fin des années 1990. Tout au long de son histoire, ces cours étaient instrumentalisés par les régimes successifs vers la construction de la citoyenneté désirée. Et pendant les années 1900, il n'y avait pas de grande évolution dans les cours, les contenus restaient les mêmes, il y avait juste des changements dans l'organisation des chapitres. Donc, le contenu et le recrutement des enseignants et du cours de religion est à la charge du ministère de l'Éducation et de la Recherche et des Cultes. Et à l'école primaire, ce sont les instituteurs qui sont chargés du cours. Et pour les collèges et les lycées, ce sont des professeurs de théologie. Donc, à propos des évolutions, pendant la période de 1991 et 1995, le gouvernement socialiste a essayé de renouveler les contenus des manuels, du cours de religion en rédigeant de nouveaux manuels scolaires. Puis, en 2003, le dispositif des manuels scolaires, la totalité du dispositif des manuels scolaires, a intégré un projet de financement communautaire et dont l'objectif était la construction de la citoyenneté européenne. Donc, c'était le moment où les cours de religion faisaient aussi partie de la citoyenneté et de l'éducation à la citoyenneté. Et puis, en 2011, on a tenté une nouvelle réforme où de nouveaux programmes scolaires ont été rédigés. Et j'aimerais aussi signaler qu'en Grèce, il n'y a pas la tradition du manuel alternatif. Il y a un seul manuel pour parcours et niveau pour toutes les écoles du territoire grec. Et ce manuel est rédigé par le ministère de l'Éducation, des Recherches et des Cultes. Et avant les années 2000, un représentant de l'Église grecque et faisait partie du comité de rédaction des manuels du cours de religion, mais quand même il pourrait quand même influencer la rédaction d'autres manuels, notamment les manuels d'histoire. Puis pendant les années 2000, il y avait une ouverture et l'Église n'était plus représentée dans ces comités, mais elle avait quand même un autre pouvoir parce qu'elle faisait partie du comité de contrôle de l'ensemble du financement. Donc, j'aimerais vous présenter quelles étaient les évolutions du cours pendant les années 2000 à travers une analyse des contenus des manuels scolaires de religion de l'enseignement primaire. Alors, je vais vous montrer et présenter les titres des manuels. Pendant les années 1990, et vous voyez qu'on était centré sur un cours d'éducation chrétienne orthodoxe. Et dans les titres, on voyait toujours les noms de Jésus-Christ. Pendant les années 2000, on voit qu'il y a un décalage. Il n'y a plus l'appellation éducation chrétienne orthodoxe. Et ça reste juste cours de religion. Et le fait que le nom de Jésus-Christ n'apparaît pas témoigne aussi de l'ouverture. Il y a Dieu qui apparaît parmi les titres et les chrétiens, donc ça montre que c'est plus ouvert. En 2011, il y avait de nouveaux programmes qui étaient rédigés, mais la rédaction des manuels scolaires n'a pas suivi, parce que le pays est en crise financière, donc il n'y avait pas le budget pour la rédaction des manuels. Et donc il y avait juste des dossiers qui ont été édités, mais ces dossiers ont été édités en 2017. Je vous présente les titres. Donc ça reste cours de religion, et on parle plutôt des personnages, des images, des histoires dans l'histoire religieuse. Donc, j'aimerais vous présenter quelle était l'évolution à propos de la construction de l'altérité religieuse dans les manuels scolaires. Donc, dans les manuels scolaires des années 1990, et il y avait une construction de l'altérité externe. Donc, seulement les autres orthodoxies et l'islam étaient présents dans les discours scolaires. Et l'islam, quand même, s'identifiait aux Turcs. Donc, toute référence à l'islam était péjorative, parce que les Turcs étaient considérés pendant une période très longue comme des ennemis. Et pendant les années 2000, où on opère la construction d'une citoyenneté européenne, cette construction de l'altérité se transforme. Donc, les manuels construisent une altérité interne. Donc, les religions présentes dans les territoires grecs font partie du discours scolaire. Et quand même, il y a une hiérarchisation implicite des religions. Et cette altérité, quand même, se présente qu'à la fin de la dernière classe de l'école primaire. Donc, tout au long de l'école primaire, les cours étaient centrés sur l'orthodoxie. Donc, on parle dans les discours scolaires sont présents les catholiques, les protestants, les juifs et les musulmans. Quand même, cette construction valorise l'orthodoxie grecque. Je vous présente quelques extraits. Donc, on voit qu'on essaye de présenter des éléments des autres religions, mais il y a toujours une comparaison avec l'orthodoxie grecque et sa tradition, afin de mettre en avant l'orthodoxie grecque. Alors, aux années 2010, le pays a reçu un autre financement pour renouveler les programmes scolaires. Donc, pour les cours de religion, on a adopté les modèles anglo-saxons. Et on a plutôt développé l'approche de « learning by religion ». Et donc, les autres religions, il y a plus de place aux autres religions. Et donc, il y a les autres dômes chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes et les hindouistes qui sont présents. Mais ces religions sont partiellement présentées. Donc, on présente plusieurs thématiques où on traite plutôt la tradition grecque-orthodoxe et après on laisse peu de place aux autres religions. Donc, la place de l'orthodoxie grecque reste dominante dans les discours scolaires. Alors, il y avait plusieurs réactions suite à l'édition des nouveaux programmes en 2011. Et donc, le gouvernement de droite qui a été au pouvoir en 2012 n'a pas autorisé la mise en place de ces programmes. Et les programmes ont été mis en vigueur en septembre 2017 par le gouvernement de gauche. Il y avait beaucoup de réactions par les conservateurs et l'Église de Grèce, car les cours étaient considérés et on considérait que les cours ne respectaient pas l'identité grecque. De plus, en mars 2018, l'instance judiciaire supérieure du pays a jugé que le nouveau programme était contre la constitution grecque. Et en fait, la grande contradiction est qu'on parle d'un cours pluraliste où toutes les religions sont présentes, mais de l'autre côté, ce sont pour avoir le droit à la dispense d'assiduité, il faut déclarer qu'on n'est pas orthodoxe. Donc, dedans, il y a une contradiction. Merci beaucoup.
Merci. Merci pour cette très intéressante contribution. Et on termine cette matinée avec l'intervention de Nicolas Schreck, qui est formateur à l'ESPE de Strasbourg et chargé de cours à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, professeur d'histoire, et qui a coordonné les enseignements de langue et de culture générale pour le Sud... Pardon ?
Régional.
Oui ? J'ai pas dit ça. Général. Ah pardon, régional, pardon, pour le Sud-Alsace. Voilà.
Juste le temps... Le temps de s'installer. Bonjour, merci de l'invitation. Et puis, je suis heureux que l'Alsace fasse la synthèse de toute l'Europe. Hein. Donc voilà, donc c'est charmant. J'en attendais pas moins. Alors on sait qu'on a les amis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Mais c'est vrai que l'Alsace a été longtemps dite province à l'instar de l'étranger effectif. Et c'est vrai qu'on a regardé très longtemps dans l'histoire de la France l'Alsace comme ce petit territoire tellement sur la frontière qu'on rêvait parfois effectivement qu'elle traverse le Rhin, quoi. Alors effectivement, je vous proposerai assez volontiers une réflexion plutôt d'historien sur l'enseignement de la religion et l'enseignement de la laïcité en Alsace. Et pour initier effectivement ce mouvement, je vous montrerai tout simplement ce document qui montre, qui est assez merveilleux, un catéchisme républicain, et qui montre qu'en Alsace, tout est possible. On peut associer effectivement l'un et l'autre, et effectivement, on est sur ce territoire où les questions essentielles sont les mêmes peut-être qu'aujourd'hui. Hein, qui êtes-vous? Qui vous a créé? Qu'est-ce que Dieu? On en a parlé encore hier, hein, on retrouve donc ces questions en 1848. Et puis au fin fond d'une vallée alsacienne, on n'est pas effectivement à Strasbourg. Alors mon interrogation portera sur la cohabitation, sur ce sens effectivement de cette cohabitation. Et puis j'ai cherché une définition, n'étant pas très doué, et on m'a donné comme définition, c'est le sens de vivre ensemble, là on retrouve les siens, mais sans enthousiasme. Alors, je me posais la question de savoir quelle est la nature de cette cohabitation, et je vous montrerai avec plaisir que l'enthousiasme n'y est peut-être pas toujours au quotidien, mais que ça n'empêche pas effectivement en Alsace de trouver la voie toujours du compromis, et c'est somme toute effectivement l'essentiel. Alors trois points à mon intervention, et ça, on reprendra en fin de compte quasiment le plan de mes deux collègues. On est sur une terre qui s'arrime et qui s'ancre à l'histoire. On regardera ensuite cet essai, cette tentative que je vais vous faire de définition en fin de compte de l'enseignement de la religion au travers d'un document que je trouve assez exceptionnel et qui est un cahier effectivement de prise de notes d'une normalienne, d'une élève, d'une étudiante de master 2. Il y a des cours d'enseignement de la religion en Alsace, et on a la chance d'avoir quelques traces effectivement de ce passé, et on s'interrogera sur les éléments comme mes collègues de modernité aujourd'hui et d'évolution d'aujourd'hui. Alors d'abord, observer l'histoire d'Alsace. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'Alsace, mais je me contenterai de quelques points. Et vu que j'ai des bonnes lectures, parce que je suis un fonctionnaire, j'ai regardé la circulaire de l'inspection d'académie du 67. Je suis du 68, donc je peux le dire du mal du 67. Qui parlait du complément d'enseignement moral et qui nous dit une chose assez simple. C'est un enseignement déterminé par l'histoire. Donc sous-entendu, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme ça. C'est le passé. C'est le passé qui reste et qui garde toute son actualité. Somme toute, façon de dire, on ne changera strictement rien. Et ils ont utilisé dans cette circulaire cette date. Alors j'ose presque la tentation de dire que je vais essayer d'en utiliser que trois. Et donc, effectivement, on va voir effectivement donc l'esprit de cette circulaire. Alors, premier constat qu'on oublie souvent en Alsace. En Alsace, on est un petit peu arc-bouté parfois sur des questions de chapelle. L'Alsace a eu trois grandes tentatives, trois moments d'option. Alors, j'ai pris le terme d'option au sens de 1870, quand on demande aux Alsaciens s'ils veulent opter pour la France. Il ne faut jamais reposer cette question. On risque d'avoir des réponses parfois un peu optées pour la grande région déjà, non. Donc on risque d'avoir des réponses un petit peu bizarres. Donc ces trois grands moments me prouvent qu'en Alsace, il y a eu un mouvement très puissant de républicanisme qui a voulu effectivement implanter effectivement la laïcité à la française, à l'alsacienne, tout simplement. Et on peut les dater assez facilement. C'est tout le premier 19e siècle jusqu'aux années effectivement 1860-1870. Ce sont des années, effectivement, où, effectivement, passe en Alsace, pas d'une manière fortuite, mais je n'ai pas le temps de l'exposer, un certain Jean Masset. C'est de là qu'il va développer ses bibliothèques populaires. Et je vous inviterai une fois à aller regarder les manuels scolaires qu'il a produits quand il était en Alsace. C'est des purs petits instruments de géniaux, avec une réflexion sur l'histoire, sur la religion, sur la géographie. Le deuxième moment de laïcité est celui de 1870, où effectivement l'arrachement à la France, la perte effectivement de la relation à la France, a amené l'Alsace à devenir un territoire qui est possession dans un premier temps de tous les États allemands. Et donc on se pose la question de savoir quelle législation effectivement lui attribuer. Et on voit effectivement apparaître là la singularité, puisque effectivement on s'attendait à avoir effectivement un enseignement d'État et neutre, tel qu'on le retrouvait dans pas mal d'États allemands. Et effectivement, l'Alsace a bénéficié d'une dérogation à cette neutralité allemande, ce qui fait qu'en ce sens-là, elle a raté l'occasion historique tout à fait exceptionnelle là d'avoir pu avoir en son sein une laïcité à l'allemande, qu'on aurait pu mettre en opposition à la laïcité à la française, on aurait pu faire dialoguer, somme toute, deux formes, effectivement, de laïcité. Troisième temps, 1914-1925, j'ai pris des démarches chronologiques très, 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 très éloignées. 1914, puisqu'il ne faut pas l'oublier, dans le sud de l'Alsace redevient français. il restera français. Et donc, vous avez toute une entreprise d'un retour à la France. On va se poser la question, quel manuel, quelle pédagogie pour des élèves et pour des familles qui ont été pendant 30 ou 40 ans allemands. Et donc, on a un retour, effectivement, un enracinement dans cette laïcité. Jusque dans les années 24-25, avec ces grandes grèves scolaires, l'Alsace n'est pas douée pour les grèves, mais ces grandes grèves scolaires qui ont effectivement bloqué l'enseignement public et qui ont amené, effectivement, depuis à peu près les années 1924-25, à tous les gouvernements à être d'une prudence tout à fait absolue. Alors, les conséquences, très rapidement, je n'ose même pas vous les montrer, c'est un amas de textes. Donc c'est un millefeuille de textes législatifs qui portent effectivement ce qu'on appelle d'habitude le statut effectivement d'Alsace-Moselle. Je vous ai mis juste pour vous faire peur, donc la liste à peu près exhaustive, enfin même pas exhaustive des textes, et je me suis arrêté à ceux qui posent le plus de problèmes, à savoir 1936 avec la question, et mes collègues en ont parlé, de la dispense, qui est sans doute la vraie question qui reste effectivement en arrière-plan de toutes les discussions encore aujourd'hui. Et puis le deuxième constat, vous l'avez compris, c'est un passé qui perdure, c'est un temps passé qui perdure. Et puis donc, en perdurant, ce passé, effectivement, il affronte en fin de compte la modernité des pratiques et il amène effectivement à des réflexions sur les évolutions à venir. Deuxième entrée, donc la question, en fin de compte, de la définition d'une discipline scolaire. Enseigner à la hauteur de une heure dans l'emploi du temps, à savoir effectivement la religion, chose qui étonne souvent effectivement comme on disait encore ce matin, les Français dits de l'intérieur, parce que nous sommes les Français de l'extérieur, le colloque le rappelle. Donc la religion est donc une discipline scolaire. Et effectivement, elle souffre, je crois, fondamentalement, comme toutes les autres disciplines, de toute la vague des réformes. Et moi, comme historien, je me plais toujours à critiquer ces réformes qui jamais nous ôtent la moindre ligne de programme et qui toujours méticuleusement est en capacité de nous ôter des heures d'enseignement. Donc on est à peu près dans ce cheminement. Or, force est de constater qu'effectivement, elle a, depuis les années, elle a su garder, en fin de compte, ce petit trésor de guerre, un petit trésor de guerre, une heure d'enseignement sur le temps scolaire, c'est pas grand-chose. Ouais, mais c'est quand même une heure. C'est quand même une heure. Et surtout, alors qu'effectivement, la tentation aurait pu être importante en 1991, en 2013, vous savez, avec les APC, où l'histoire géo a perdu quand même la moitié de son temps scolaire. La tentation aurait pu être prise, effectivement, à ce moment-là, de faire tout simplement évoluer la durée, effectivement, de la religion. Alors aujourd'hui, on a donc ce territoire singulier où il y a, en fin de compte, trois formes de disciplines qui cohabitent. On a bien sûr de l'EMC avec une heure effectivement de temps scolaire. On a le cours de religion et puis on a, ne l'oublie pas, puisque les parents utilisent le système de la dispense, on a ce fameux complément d'enseignement moral qui est donné par les professeurs qui restent en classe alors que souvent effectivement ce sont des intervenants qui viennent effectivement effectuer leur de religion. Alors donc comment réagir et surtout comment définir cet enseignement religieux qui et donc j'ai choisi de passer par vraiment un document que je trouve magnifique. Ça vaudrait même le coup de faire une thèse sur cette personne, parce que là c'est une dame qui a laissé ses 173 cahiers de scolarité, elle les a tous réunis, elle les a tous offerts aux archives départementales. Et en fouillant ses cahiers à la recherche des cahiers d'histoire, je suis tombé bien sûr sur le cahier de sa formation religieuse à l'école normale des jeunes filles catholiques de Célestin. Puisque vous savez qu'en Alsace, jusqu'en 1989, comme moi j'y étais, donc juste avant la naissance des IUFM, comme élève, on collectait encore donc la confession des normaliens qui rentraient effectivement dans les écoles normales. Alors donc quelle définition ? Alors les photos sont à la hauteur de mon incapacité à les prendre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Donc vous avez donc un très beau cahier, enfin il est beau, vous inquiétez pas. Donc j'ai mis deux extraits que je vais peut-être un peu commenter, parce que ça permettra aussi un petit peu d'agrémenter notre discussion. Ce que doit faire l'instituteur, l'émission du prêtre. Et de l'autre côté, c'est cette pépite que je trouve dans ce cahier tout à fait magnifique, ce chapitre intégralement consacré aux méthodes dites actives. Mais ça, effectivement, ça intéresse. Enfin, nous, en histoire, qui avons tellement de mal à enseigner autrement parfois qu'en plein 19e siècle, hein, se retrouver avec une discipline qui est différente de la nôtre et qui montre des signes de modernité, ça nous achoppe effectivement très très rapidement. Alors le programme, je le rappelle, hein, donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale, hein, en condition d'une bonne instruction chrétienne, similitude entre la vie du Christ et la vie enseignante, hein, les prières, le catéchisme, l'enseignement de la morale, les biographies, l'histoire sainte, la Bible, la liturgie, et les trois derniers chapitres qui sont les plus intéressants, les méthodes actives, ce que c'est qu'un cahier de religion et les difficultés d'un tel enseignement. Ah, ça vaudrait chaque fois commentaire, hein, et long commentaire, j'ai pas le temps là. Mais vous voyez que les contenus sont extrêmement variés, il y a des empilements, on va dans toutes les directions, on est très très loin uniquement de quelque chose qui est centré sur le rituel ou sur le catéchisme. On a cette présence effectivement des méthodes actives qui sont décrites systématiquement en parallèle effectivement avec des réflexions tenant à la psychologie de l'enfant. Et donc on voit effectivement quelque chose d'une extrême modernité. Hein. Ça aurait pu, on pourrait voir des chapitres de ce type-là dans des cahiers qui ont 20 ou 30 ans de plus. Hein. Et effectivement, donc, un questionnement quant à la place de la doctrine. Et effectivement, je ne peux pas m'empêcher de le rappeler, parce qu'il ne faut pas la perdre de vue. Hein. Il faut aborder la doctrine de manière historique et avec des démarches concrètes. Hein, donc acte de pédagogie active, mais également donc réflexion sur effectivement le sens, l'inscription en fin de compte de la religion au contact en fin de compte des autres disciplines. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Alors j'ai peut-être pas le temps de l'aborder. L'enseignement du ou des faits religieux continue à évoluer effectivement en Alsace. On en parlait hier, effectivement, on est de plus en plus, et alors c'est assez intéressant, puisque le congrès de 2003 et les documents, par exemple, que j'ai pris pour 2013, sont des documents qui ont été rédigés par les mêmes personnes, souvent. Hein. Donc on voit la permanence des acteurs, et plus particulièrement de certains inspecteurs généraux, et on voit également que cette vision qu'on a vue hier, hein, d'une définition, effectivement, des faits religieux qui est de plus en plus patrimoniale, hein, et un petit peu plus modeste quant à sa définition de la laïcité quand même. On a le mot laïcité, hein, il apparaît un petit peu moins souvent quand même, hein, dans les derniers documents, comme d'ailleurs, hein, on pourrait faire le parallèle avec les programmes scolaires. Alors c'est vrai que on s'attendrait bien sûr à ce que laïcité soit pas trop présent dans le programme de religion. Hein, je vais mettre en opposition deux programmes qui se corrèlent très bien, enfin, quand le programme de religion, avec effectivement donc une prise de position qu'on connaît, qui est classique, hein, effectivement, donc rentrer dans la dimension du culturel, valider le culturel et ouvrir effectivement vers les autres disciplines, et effectivement cette irruption d'un tout nouveau programme et d'un travail tout à fait titanesque, hein, donc le 5 septembre 2018, hein, je vous ai mis le site où vous avez un programme scolaire pour l'école élémentaire et pour le collège qui fait plus de 800 ou 900 pages, quoi, quelque chose, un travail de titan, quoi. Hein, et avec effectivement, pour la première fois, surtout pour le collège, l'introduction d'autres religions, et plus particulièrement de l'islam. Donc, alors j'ai pas le temps trop de venir dessus, mais c'est dans cette prison. Alors j'ai pris quand même des exemples. Je suis allé voir si dans les cahiers de religion on trouvait déjà le nouveau programme. Le nouveau programme date de septembre, et je suis allé voir donc fin novembre si dans les cahiers de religion il était déjà présent. Il est déjà présent. Et on voit très bien les identifications, hein, en haut des feuilles, DE4, avec en plus, hein, quelque chose que nous savons très mal faire, nous les autres pédagogues, avec une volonté de communiquer avec les familles. À l'entrée de chaque chapitre, effectivement, il y a ce petit document qui vient et qui explique. Alors, en plus, le texte mériterait effectivement un commentaire exhaustif, hein, qui rentre par des verbes d'action. Enfin, bon, on connaît la démarche, mais qui est tout à fait exemplaire également. Alors, je suis un peu triste parce que dans la Corporation des historiens, j'ai l'impression qu'on fait le cheminement inverse. On a bien sûr des nouveaux programmes depuis 2015. On est revenu à cette dialectique que vous connaissez, hein, d'un côté effectivement dans l'enseignement primaire, le temps des rois, et puis donc le temps de la chrétienté des rois, pour faire simple, hein, et de l'autre côté le temps de la République. Mais en feuilletant vraiment et en lisant très assidûment, comme font les stagiaires, les pages d'Eduscol, le commentaire de programme, je me suis amusé à compter les mots. Les mots ont du sens, mais le nombre de mots a aussi un sens. Et effectivement, on a à peu près sur l'effet religieux, c'est presque 800 mots dans les commentaires de programme. La laïcité, c'est moins de 200 mots. Et donc on a un cheminement qui est un petit peu paradoxal. On laisse un petit peu la laïcité marcher vers l'enseignement moral et civique, et on tente moins dans le programme d'histoire de la tirer effectivement vers les historiens. Et j'ai du mal effectivement à percevoir le pourquoi de cette chose. Alors, quelle recomposition, vous avez compris, l'ESP est à la croisée de tout, de tous ces mouvements. Et effectivement, à l'ESP de Strasbourg, on a la chance, puisqu'on parle à plusieurs voix et on ne se coordonne pas de manière autoritaire. C'est-à-dire, le philosophe va parler des faits religieux, le prof de religion va parler des faits religieux, le prof d'histoire va parler de faits religieux. Parfois, ça va donner lieu à certaines confusions dans la tête, peut-être, effectivement, de ceux qui nous écoutent. Mais force est de reconnaître, j'ai fait un sondage sur cette pratique, force est de reconnaître que effectivement, ça ne pose pas vraiment de difficultés de compréhension des contenus aux stagiaires. Par contre, il y a deux éléments de difficulté qu'ils ont fait relever. C'est effectivement donc cette incompréhension qu'ont les stagiaires devant une obligation de service qu'on appelle le complément d'instruction morale. Vous savez, c'est quand les élèves ne suivent pas la religion, ils restent avec le professeur des écoles et le professeur des écoles avoue que pour lui, c'est le vide. C'est le vide sidéral et il ne sait pas vraiment quoi faire. Et effectivement, il y a une circulaire qui nous dit qu'il faut que ce soit des activités d'approfondissement, de reprise, d'entraînement sur des questions de morale. La circulaire, elle existe. Elle ouvre d'ailleurs sur l'Europe, intégralement avec les modèles qu'on a vus avant. Mais alors j'ai fait la liste. Alors certains vont faire du jardinage avec les élèves, d'autres effectivement font d'autres choses très intéressantes, toutes bien sûr. Il y en a même effectivement, il y a une personne qui m'a avoué s'occuper de laïcité, très bien, très bien. On a un petit peu de tout, mais effectivement on peine à trouver effectivement vraiment un sens à ce qui est perçu effectivement comme étant plutôt une contrainte. Il y en a même qui avouent tout simplement qu'ils vont dans le bureau de la directrice ou du directeur et qui font autre chose, quoi. Donc, c'est le moment où ils font les photocopies. Et puis la deuxième difficulté, j'arrêterai avec celle-ci, c'est l'identification en fin de compte des faits religieux. Je leur ai posé la question de savoir si c'était pour eux une discipline ou pas. Est-ce que c'est une discipline? Après les enseignements que vous avez reçus, des philosophes, des historiens et des profs de religion, est-ce que c'est une discipline ou pas? Et je m'attendais à ce qu'ils me répondent tous, non, mais vous avez tous les trois, vous avez dit que ce n'était pas une discipline, donc il n'y a aucun souci, revenons pas là-dessus. Et puis il y a quand même 20% de, à peu près 20% de gens, enfin bon, 20% de gens qui me répondent, enfin qui me disent, ouais, non, c'est sans doute une discipline. Ouais. Et donc, alors c'est soit qu'on n'a pas été suffisamment clair, c'est possible, à trois, ça fait quand même beaucoup de confusion pour si peu de certitude. Mais bon, alors je me suis dit qu'il y avait sans doute une raison à ce oui. Et la raison, sans doute, pour moi, viendrait d'un discours qui devient de plus en plus un discours d'interculturalité en Alsace. On propose de plus en plus le fait religieux noyé dans de l'interculturalité et on tente aussi très 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 facilement de mobiliser les disciplines scolaires, non plus dans leurs appartenances propres, mais au travers effectivement de ce phénomène d'interculturalité. Et alors effectivement, je vois que effectivement du côté sans doute de l'évêché et du rectorat, il y a des stratégies peut-être effectivement d'intégration de l'islam en Alsace. Et ça permettrait effectivement un cours d'interculturalité, permettrait effectivement d'avoir des faits religieux, d'avoir de l'histoire de la religion, mais permettrait aussi d'intégrer les autres cultes. Ça permettrait également peut-être d'avoir une réflexion sur les postes, parce qu'il y a aussi des affaires effectivement de sauvegarde de l'emploi derrière. Et puis ça permettrait peut-être de revenir sur ce dernier débat qui a jamais été tranché en Alsace, qui est la question effectivement de la dispense. Alors je m'explique. Si le cours d'interculturalité devient obligatoire et qu'il y a des faits religieux dedans, il s'adresserait donc logiquement à tous. L'horaire, on l'a, c'est une heure par semaine. Et donc, effectivement, ça rendrait de fait caduque la question, effectivement, de la dispense, rendant de fait aussi l'enseignement, effectivement, de la religion intégralement obligatoire. Alors ensuite, qu'est-ce qui va advenir de cette hypothèse, hein, de cette hypothèse, sans doute rien. hein, puisque le ministre a dit qu'il n'en voulait pas. Et puis effectivement, le front s'est déplacé non plus de Caen à Strasbourg, hein, mais de Metz à Strasbourg. Il est devenu beaucoup plus entre gens de l'Est, hein, puisque effectivement l'évêque de Metz semble ne pas vouloir de ces solutions et que effectivement donc les Alsaciens vont se retrouver tout seuls. Mais on a l'habitude, hein, puisqu'on est sur la frontière, de rester effectivement entre soi. Hein. Quelle conclusion ? Alors l'Alsace offre aujourd'hui une histoire française à l'envers. À l'envers. Hein, c'est une discipline, la religion est une discipline à faible horaire, hein, et elle aimerait effectivement devenir une discipline obligatoire pour tous, sans possibilité de dispense. Somme toute, elle rêverait tout simplement de retrouver son statut de la loi Falloux de 1850. Hein, c'est aussi simple que ça, hein, au risque d'ailleurs, hein, de la confiscation de collatérale effectivement du fait religieux. Bon, ma foi, oui, c'est une belle histoire quand même, même si elle est effectivement à l'envers. Merci de votre attention.